1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Avec le rappel des titres de l'actualité, Simon Rubin.
Et pour éviter une potentielle deuxième vague épidémique, le port du masque sera étendu, annonce d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Dès le 1er août prochain, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos. Et si jamais une deuxième vague devait arriver, la France serait prête à l'affronter, assure le chef de l'État, qui précise qu'un reconfinement global et massif, comme on l'a connu, ne serait pas la solution prioritaire. Et puis en marge de ces annonces sanitaires, plusieurs milliers de personnes ont manifesté un peu partout en France pour dénoncer l'insuffisance des accords conclus lors du Ségur de la santé. Le président de la République est également longuement revenu sur la rentrée économique qui se profile et la crise qui frappe et va frapper de plein fouet de nombreux secteurs. Emmanuel Macron promet 100 milliards d'euros supplémentaires pour relancer l'industrie, la culture, l'éducation. Un accent particulier est mis sur l'emploi des jeunes. Troisième chantier, l'écologie. Emmanuel Macron réaffirme son intention de relancer le fret ferroviaire, les petites lignes de train, les trains de nuit. Et puis la lutte contre le réchauffement climatique doit être inscrite le plus rapidement possible dans la Constitution, précise-t-il, avec en vue un référendum. Un randonneur de 71 ans, on l'apprend il y a quelques minutes, a fait une chute mortelle aujourd'hui alors qu'il se trouvait à proximité du sommet du Mont de Grange dans le massif du Chablais, c'est en Haute-Savoie. Les raisons de cette chute sont encore inconnues.
Merci Simon, vous revenez à 19h pour une édition complète. La météo des plages, Anissa. On prend la direction du bassin méditerranéen et la Corse.
Exactement Thierry, là où il fait beau. Demain après-midi, le soleil brille de la Côte d'Azur jusqu'au Roussillon sur tout le bassin méditerranéen. À Fréjus, grand soleil demain, 31 degrés sur la plage, 25 dans l'eau. À Saint-Cyprien, grand beau temps également avec 29 degrés sur le sable, 22 dans l'eau. Forcément, c'est plus frais dans l'eau puisque la tramontane souffle et elle va souffler encore demain en rafale jusqu'à 55 km/h. En Corse, à Bastia, demain, quelques averses. Le ciel est gris dans l'après-midi avec 35 degrés sur le sable et 25 dans l'eau. Et puis à l'est de la Corse, à Cargès, c'est grand soleil. 37 degrés sur le sable, 24 dans l'eau. Pensez à vous protéger lundi UV sur le bassin méditerranéen et sur la Corse est assez élevé. Et puis dans une heure, si vous le voulez bien, je vous emmène sur la côte atlantique et dans le Nord.
A tout à l'heure, merci.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagirel. Et jusqu'à 19h, on décortique toute l'actualité avec les grandes voix. Ce soir, autour de vous, l'éditorialiste Marie-Ève Malouine et Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien.
Bonsoir à vous deux, mesdames.
Bonsoir.
Merci d'être sur Europe 1 ce soir. On va revenir, bien sûr, en détail sur les principaux points de cette interview de 1h20 jusqu'à 19h avec vous. D'abord, en quelques mots, votre sentiment chacune sur cette interview attendue à l'équation difficile, Jannick Halimi.
J'aurais deux mots, décevant et clair.
C'est clair.
Clair et décevant, comme vous voulez. C'est décevant, je peux juste développer un tout petit peu.
Décevant
allez-y. Parce que ce n'est pas à la hauteur d'un président de la République et ce n'est pas assez précis pour être le discours, les propos d'un Premier ministre. Ce qu'il n'est pas, bien sûr.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas, pardonnez-moi, le fait de laisser la place à son Premier ministre qui aura son discours de politique générale demain ?
Bien sûr, mais il n'a pas été à la hauteur, je trouve, cette interview d'un chef celle d'un chef de l'État, surtout à ce moment précis qui est un changement de gouvernement, une sortie de crise.
Un cap nouveau, voilà, une relance.
Et puis une crise sociale qui se profile. En revanche, pour terminer, je pense qu'on aura compris quand même que le cap ne change pas. Même si sur les retraites, il semble quand même mettre un peu la pédale douce et que voilà, le Premier ministre va devoir discuter de l'agenda et de rien d'autre avec les partenaires sociaux. Et que, je finis là, la relance va être la priorité des priorités pour les deux années qui viennent.
Marie Malouine.
Oui, moi à l'inverse, je suis de la même opinion, mais je ne le trouve pas clair du tout. J'ai trouvé que c'était assez confus toute la première partie, on voyait pas bien, il avait pas l'air très à l'aise. Et la deuxième partie, plus allant, plus enthousiaste, presque exalté à la fin. Et en fait, je me suis rendu compte en relisant, la première partie, c'était toute la justification de ce qu'il avait fait, pourquoi il avait changé de Premier ministre. Et là, il n'arrivait pas très bien à l'expliquer. En revanche, sur ce qu'il va faire, là, c'est beaucoup plus facile, puisqu'en plus, comme les vannes sont ouvertes, les caisses sont ouvertes, c'est plus facile à faire.
Une chose est sûre, en tout cas, la réforme des retraites n'est pas enterrée, on l'écoute.
Je pense que cette réforme est juste. Et elle est faite pour celles et ceux qu'on a appelés les premiers de corvée. Les femmes et les hommes qui ont été en première ligne, caissières, livreurs, métiers modestes, souvent avec du temps partiel subi. Cette réforme des retraites, ils en sont les grands gagnants. Et parce que je vous rappelle que dans cette réforme, il y a aussi la meilleure prise en compte de leur période d'activité. Et il y a également une avancée sociale inédite qui est la retraite à 1 000 euros pour tout le monde, le minimum contributif à 1 000 euros. Je crois que cette réforme est juste. Il faut peut-être lui donner un peu plus de temps, mieux la concerter, on doit la remettre sur l'ouvrage.
Jeannick Halimi, les syndicats, on l'a vu la semaine dernière, n'en veulent pas de cette réforme des retraites pour le moment, priorité à l'emploi, et pourtant le président ne l'oublie pas.
Oui, bah c'est justement un des points qui peut expliciter, en tout cas symboliser le malaise quand même de ce président de la République qui veut montrer qu'il garde le cap parce que, comme il l'avait dit dès le début, sa légitimité à lui, il l'attire encore et toujours de son élection de 2017 et de ce président...
Avec cette promesse de réforme.
Exactement. Et de ce président réformateur et parmi d'autres. Mais celle-ci, notamment la réforme des retraites, devait être la réforme mère. Donc il y tient et pour garder son cap, pour montrer qu'il est le président réformateur peut-être en passe de demander un second mandat en 2022, il faut qu'il il n'ait pas question pour lui de dire qu'il la jette ou qu'il la repousse au calendrier grec. En revanche, il sait pertinemment, il est convaincu de la justice et de la justesse de cette réforme par point ou à parvenir sur les... Par contre, il sait très bien que ça a déclenché et que ça risque encore de déclencher l'ire des syndicats, et y compris la CFDT qui était plutôt favorable, en tout cas, à ce qui était la réforme systémique, la réforme par points, la suppression des régimes spéciaux, pas l'âge pivot. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Ouais. Et moi, ce que j'ai compris, c'était qu'il l'affiche, mais il va laisser le soin à son Premier ministre qui va recevoir les partenaires sociaux vendredi.
De négocier, de reprendre tranquillement les négociations.
De négocier même l'agenda. Je ne suis même pas sûre qu'il renégocie sur le fond.
Ouais. Marine Malouine.
Non, je crois qu'il essaie de travailler pour sa candidature de 2022. On a bien compris qu'on était à l'hémistiche, puisque c'est l'expression consacrée de ce mandat. Et là, il se projette sur 2022. Il ne veut pas arriver et qu'on lui dise « Vous n'avez pas réformé, vous n'êtes pas un grand réformiste à preuve, la réforme des retraites qui devait être la mère des réformes, vous ne l'avez pas faite. » Donc il ne veut pas se dédire, il ne veut pas se renier. Il a raison, c'était une réforme majeure, c'était une réforme juste.
Et c'est important pour son électorat aussi qu'il vise dans 2 ans.
Même si une part de son électorat a plus trop bien compris à la fin ce que devait être cette réforme des retraites. Donc il ne l'abandonne pas, il ne se renie pas, mais c'est au Premier ministre de chercher le calendrier, c'est-à-dire pas revoir le détail de la réforme, ni le contenu, ni ce qui gênait dans cette réforme ou pas. Et donc à la fin, qu'est-ce qui va se passer en 600 jours avec 2 élections au milieu, eh ben ça ne se fera pas, mais ce ne sera pas de sa faute. Ce sera le Premier ministre qui n'aura pas réussi.
Vous restez avec nous. Beaucoup d'argent, des milliards, la relance, l'emploi des jeunes, on en parle dans un instant avec vous. A tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Thierry Dagiral, entouré des grandes voix.
Et on décrypte bien sûr ce soir l'interview d'Emmanuel Macron à la mi-journée. Interview que vous avez pu suivre bien sûr en direct sur Europe 1. On va parler bien sûr du chômage. 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail là à la rentrée au mois de septembre. Et des annonces assez fortes. Priorité à cette relance, l'apprentissage, exonération des charges pour les jeunes. On va créer un mécanisme nouveau des contrats d'insertion, 300 000 contrats d'insertion, 200 000 contrats services civiques qui vont être créés.
Plus la possibilité de pouvoir poursuivre ses études si on ne trouve pas du travail tout de suite.
Exactement.
En étant
une rallonge accompagné. Au moins un trimestre, voilà.
C'est vrai que il a raison.
Là, pour le coup, il y a des choses. Enfin, c'est concret.
Il a raison. On ne sait pas quand est-ce que ça commence, mais visiblement, on peut imaginer que c'est pour la rentrée. Mmh. Et il a parfaitement raison parce que laisser tomber les jeunes qui ont été touchés par cette crise, ils ont fini leurs études ou ils ont eu du mal à trouver leur stage, leur stage d'apprentissage, et ils se retrouvent en septembre sans travail et un marché de l'emploi saturé. Ça fait une génération démotivée, désespérée, et leurs parents avec eux. Donc, il a raison de mettre l'accent sur les jeunes qui, depuis longtemps, ont du mal à trouver leur place aussi dans une société qui est dure, qui a perdu son sens, où on n'a pas de confiance, qui vote peu. Donc il a raison de mettre le paquet sur les jeunes.
Jeannick Halimi, là au moins c'est clair, il y a des choses concrètes.
Oui, il y a des choses concrètes. Encore une fois, est-ce que c'était au président de la République à les présenter? Mais c'est très bien, il fallait le faire. C'est indispensable.
Il fallait bien qu'il arrive avec quelque chose quand même.
Pardon?
Il fallait bien qu'il arrive avec quelque chose.
Oui, mais si vous nous en laissez le temps, enfin moi je pense qu'il aurait pu se placer à une hauteur différente tout en annonçant des choses concrètes sans effet de manche lyrique dont plus personne n'est dupe. Mais peu importe, c'est comme le dit Marie-Ève, c'est quelque chose de très important. Les jeunes, pour toutes les raisons qu'on a déclinées avec la crise qui s'annonce, c'est une façon aussi de les former aussi. Il y a un fort accent sur la formation. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent, même maintenant, on n'est pas en pleine crise, mais presque, qui cherchent de la main-d'œuvre qui n'en a pas par défaut de formation. Ça, c'est un problème intrinsèque, fondamental, structurel de la France. Donc, ce sont des données effectivement massives, importantes, bon, qui n'ont rien non plus de d'ébouriffant. Je veux dire, ça a été les emplois jeunes d'un côté, on ne va pas rentrer dans les différences. C'est quelque chose de très classique, mais indispensable. Et indispensable, nécessaire au regard de la crise qui s'annonce. Deuxième point important, alors là où je rejoins peut-être le Macron numéro un, lorsqu'il avait une vision, lorsque c'était le candidat et le début du Macron 2017 qui promettait de changer fondamentalement la société et les règles de fonctionnement de la France. Vous vous souvenez peut-être que les jeunes et faisaient partie justement de cette catégorie qu'il estimait complètement défavorisée et qui, à travers la fiscalité, notamment, souvenez-vous, la hausse de la CSG pour les retraités qui lui est revenue dans la figure avec les gilets jaunes, mais ce changement de fiscalité en défaveur, entre guillemets, des retraités, c'était pour favoriser l'emploi et pour favoriser les jeunes. Donc là, on retrouve, mais un peu forcé par la force des choses, hein, par la contrainte de la crise, on retrouve le Macron pro-jeune, j'allais dire, mais on va voir maintenant ce que ça va donner dans les faits et en matière financière d'espèces sonnantes et trébuchantes.
Yanis nous a contacté au 39-21. Bonsoir Yanis.
Bonsoir.
Justement, vous êtes un jeune, vous avez quel âge? 21 ans, c'est ça?
20 ans.
20 ans, vous nous appelez de Marseille, on vous écoute.
De Marseille, oui. Alors moi, ce que je demanderais, c'est ne croyez-vous pas que les contrats d'insertion et les services civiques sont une solution uniquement temporaire et je trouve un peu facile de la part de Macron et que les jeunes concernés par ces contrats risquent de retomber dans leur galère une fois leur contrat terminé.
Marie Malouine.
Oui, forcément, c'est une solution temporaire, mais ça permet, comme on dit, de mettre le pied à l'étrier, d'avoir une expérience professionnelle, d'avoir une ligne supplémentaire sur son CV. Mais on ne peut pas aider tous les emplois tout le temps en permanence. Donc là, pour que les jeunes accèdent au marché du travail, c'est une première étape. Mais c'est vrai que ce n'est pas pérenne dans le temps, mais il faut aussi à eux d'en tirer le meilleur profit pour pouvoir trouver un poste ensuite.
Merci à vous Yanis de nous avoir contacté au 39-21. L'écologie, on peut en parler également? Il en a peu parlé.
Si vous voulez.
Sans doute pour laisser à son Premier ministre demain le soin d'en parler, j'imagine.
C'est un peu compliqué.
Écoutez, l'écologie, on l'avait deviné hein, déjà à la formation du gouvernement, même si Barbara Pompili était le numéro D du gouvernement dans la hiérarchie, etc. Mais on avait deviné que ce n'était pas la ligne force en termes de mesures et en termes de conquête de l'électorat. Pourtant, après les municipales, hein, on a vu la vente verte.
Et pourtant, Bruno Le Maire, qui était la semaine dernière sur Europe 1, dit la relance verte, on n'entend que ça.
Mais alors justement, si l'écologie apparaît, elle apparaît notamment, d'abord, dans l'interview, j'ai du mal, d'Emmanuel Macron, comme étant une mesure, un des éléments de la mécanique du plan de relance, puisque c'est à travers la rénovation des bâtiments, c'est à travers les primes aux véhicules
rénovation
propres.
Rénovation des écoles, des EHPAD.
Voilà, c'est ça. Donc vous voyez que...
On va produire de l'emploi à ce moment-là.
Voilà, c'est l'écologie mieux, mais pas l'écologie plus. Enfin, c'était quelque chose comme ça, comme définition. Et donc ça, il faut que l'écologie soit au service de la production et de la création d'emplois, et surtout pas l'écologie que défendent énormément d'écologistes, y compris des maires qui viennent de se faire élus, qui est plutôt, on va dire très rapidement, je schématise un peu,
l'économie
de la décroissance et un peu malthusienne. Et il y a quand même le deuxième élément, mais qui reste quand même assez théorique, c'est la possibilité de la réforme de la Constitution en mettant le principe de la défense du climat, de la transition écologique dans la Constitution. À condition que l'Assemblée nationale et le Sénat les votent, cette transformation constitutionnelle. Ouais. Et après, soit ça passe par un congrès, soit par un référendum. C'est à petite dose. Et franchement, effectivement, ce n'est pas le Macron vert que certains auraient pu rêver.
Marianne Malouine, vous attendez plus, vous, demain, dans le discours de politique générale de M. Castex?
Sur l'écologie, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses en plus. En plus, c'est un secteur où il est assez prudent parce qu'il y a les écologistes verts politiques qui veulent en faire beaucoup. Alors, les gens ont voté pour eux au niveau local parce que ça reste à une échelle qui rejoint aussi la qualité de vie beaucoup. L'écologie locale, pour les gens, c'est aussi beaucoup la défense de leur qualité de vie. Au niveau national, tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices éventuels que ça demande. Donc Emmanuel Macron est prudent là-dessus. Puis on l'a vu depuis le début du quinquennat, quand on a eu Nicolas Hulot comme ministre et qu'on n'a pas su en tirer profit en résultat concret.
Face à Bercy, ça a posé, face au lobby également.
Oui, mais il y a un Premier ministre, il y a un Président de la République, hein, il arbitre aussi. Si le ministre a du mal, qu'il vient de la société civile à défendre ses arbitrages, le Président aurait pu tout à fait lui donner un coup de main et l'aider davantage. Ce n'est pas ce qui s'est passé parce que Emmanuel Macron n'est pas non plus, on ne l'a jamais ressenti, comme un écologiste convaincu, ni dans son style de vie, ni dans ses propos, dans l'âme. Lui, l'écologie, elle doit être au service de la production et de la société économique.
Allez, il y a un autre élément, pardon, la hausse de la taxe carbone qui a provoqué les gilets jaunes. Ça aussi, ça marque un quinquennat.
Ouais. Allez, on continue de décrypter cette interview d'1h20 d'Emmanuel Macron et avec un président qui a fait un mea culpa à la mi-journée.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Thierry Dagiral et jusqu'à 19h. Les grandes voix sont là pour décrypter l'interview d'Emmanuel Macron à la mi-journée. Marie-Ève Malouine, éditorialiste, et Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien.
Oui, l'interview a commencé par des questions très, très politiques. Un président pas très haut dans les sondages, controversé, qui a tenté, dès le début, un mea culpa.
J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être profondément. Mais que les gens se sont mis à détester ce président qui voudrait tout réformer pour que ce ne soit que les meilleurs qui puissent réussir, que notre pays finalement s'adapte à la mondialisation. Ça n'est pas mon projet, mais le jeu des maladresses parfois, des phrases sorties de leur contexte d'autrefois, de l'opposition, de la vie politique, a fait que cette détestation a pu être alimentée.
Jeannick Halimi, Marie-Ève Malouine. Ça, c'est la grande différence avec nos voisins allemands. Le peuple est derrière Angela Merkel massivement. Ce n'est pas le cas en France après cette crise, Jeannick Halimi.
Non, c'était d'ailleurs la question qui lui était posée. Il y a véritablement, comme le disait, je crois, Gilles Boulot, une détestation d'Emmanuel Macron, au-delà même de sa politique, puisque Édouard Philippe, qui l'incarnait aussi, bien sûr, cette politique et ô combien, est parti plutôt sur un pic de confiance. Donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est le président de la République, c'est vrai qu'il a eu des maladresses depuis qu'il est arrivé à l'Élysée de langage que n'avait pas eu Édouard Philippe. Souvenez-vous, tu traverses la rue, tu trouves un job, ton costume, ça se mérite. Enfin, vous vous souvenez ce genre de...
Il y a eu des erreurs dès le début de communication.
Il y a eu des erreurs de communication, le pognon de dingue. Mmh. Et ça marque. Hein, et ça marque les populations et certaines catégories de population plus que d'autres, mais même toutes les populations qui se sentent visées, stigmatisées, au-delà, bien sûr, de la politique que d'aucuns jugent et peuvent juger en faveur des riches, en faveur des premiers de cordée, etc. etc. De cela, Emmanuel Macron, il en est totalement lucide. Je trouve que le diagnostic qu'il fait sur les retraites, sur sa façon de réformer, il en est. Le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'il fait son mea culpa.
Ouais.
Donc à force de faire des mea culpa, ça veut dire que les leçons qu'il en tire sont à courte vue.
Ouais. Marie-Ève Malouine, il dit: j'ai donné le sentiment que je réformais malgré eux, malgré le peuple, et que ce n'était pas juste. Il y a eu ce manque d'explication, en tout cas sa ligne n'était pas claire.
Bah oui, mais je vais vous redire la même chose que Jeannick, c'est-à-dire qu'il nous l'a déjà dit plusieurs fois. Ce qu'il a fait était bien, il a fait vite, il a fait bien, il a fait beaucoup, mais il l'a mal expliqué. Et donc si les gens étaient dans la rue contre la réforme des retraites, c'est pas à cause de la réforme, mais c'est parce qu'elle avait été mal expliquée. Donc c'est un petit peu toujours les autres qui ne comprennent pas, lui, ses ministres, le Premier ministre qui explique mal, mais sur le fond, il a raison. Or, ce n'est pas un vrai mea culpa. Jamais il dit « j'ai changé, j'ai voulu aller trop vite, j'ai pas compris qu'il y avait certaines catégories de population pour lesquelles c'était trop dur ». Il a reparlé des gilets jaunes aussi, mais c'est toujours pour dire « on s'est mal compris, mais sur le fond, j'ai raison ». Et il reprend toujours, il revient toujours sur les rails. On avait même l'impression aujourd'hui, comme sur les jeux vidéo, il faisait un reset, il reprenait des munitions, puis hop, la partie repart. Exactement avec le même objectif.
Jeannick Halimi.
En sens inverse, moi je trouve qu'il y a eu des éléments très forts de la politique menée jusqu'à présent, notamment en faveur des catégories modestes, puisque c'est le reproche qu'on lui fait énormément, beaucoup lui font, vous tendez sur la droite, je ne vais pas répéter, pas assez de social, etc. Or, depuis qu'il est président, après on peut estimer comme la France insoumise qu'il faut tout blackbouler, qu'il faut remettre en cause le libéralisme. Bon, si on est sur cette ligne-là, effectivement, il est loin de la coupe aux lèvres avec la politique de Macron. Mais si on est sur le registre de Macron, il a quand même fait des choses que n'avaient pas fait les autres. Les 0%, là, vous savez, pour les prothèses auditives,
exact.
Les yeux, etc.
C'est ça.
Il l'a fait. La revalorisation des minima sociaux, il l'a fait. Là, il a quand même un élément très fort sur la table, c'est le Ségur de la santé. la plupart des syndicats, y compris Force ouvrière qui était vent debout, sont plutôt favorables. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas alors que c'est la conférence de presse de crise sanitaire? Un autre élément qui semble très fort dans les deux années qui viennent, puisqu'il y a un ministère délégué qui est créé, c'est la dépendance. Et combien ça, alors il faut voir évidemment dans les faits la dépendance. Mais pourquoi ne met-il pas en valeur les éléments qu'on peut considérer comme plutôt populaire au sens, dans les deux sens du terme d'ailleurs, de sa politique? Il l'a très mal fait depuis qu'il est président de la République. J'avoue que je ne me l'explique pas, ça.
Il a consacré quelques minutes également à son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Il fallait un nouveau gouvernement pour un nouveau chemin. Marie-Ève Malouine.
Tourner une page politique, c'est pas très convaincant. On n'a pas très bien compris toujours pourquoi il a changé de Premier ministre, puisque c'est une nouvelle page, mais c'est la même politique. On ne change pas de cap, on change simplement de chemin. C'est un peu subtil, c'est un peu, on tourne autour du pont, on ne dit pas vraiment les choses. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer pourquoi Édouard Philippe a dû partir, qui était populaire, qui était efficace. Les gens lui reconnaissaient le fait de faire et de dire quand il ne savait pas. C'était plutôt positif et on a l'impression que le président de la République a changé de Premier ministre pour avoir un Premier ministre qui soit un peu plus factotum, finalement. Ouais. Mais ce qui n'est pas du tout le cas de Jean Castex.
Il ne fallait pas reprendre le dialogue social à zéro, Yannick Halimi.
Alors ça, moi, je trouve que c'est un faux procès aussi.
Écoutez, ce qu'il semblait dire à midi,
oui,
en tout
oui,
cas.
Oui, oui, alors c'était une
critique. Il fallait mettre de la rondeur, qu'il fallait
exactement,
renégocier.
Exactement, moi, je serais Édouard Philippe, je sortirais de mes gonds, je quitterais le Havre tout de suite et j'irais taper à la porte de l'Élysée. Mais on peut estimer que c'était pas le cas, que ça n'était pas suffisant. Mais tout de même, notamment depuis les Gilets jaunes, les grands débats, c'est quand même, certes, Emmanuel Macron, mais Édouard Philippe qui l'a amené. La retraite, il ne cessait de nous dire que c'était discuté depuis des mois avec M. Delevoye. C'était vrai ou c'est pas vrai? Si c'était faux, il fallait le dire que c'était faux. Il n'empêche qu'officiellement, il y a eu des concertations. La concertation sur la convention climat, il me semble que ça a été quand même pendant le ministère enfin d'Edouard Philippe. Donc je trouve que, alors on n'en fait jamais assez, je suis d'accord, mais je trouve que c'est un faux procès. Je pense que certains disent que c'est parce qu'il était trop populaire, Édouard Philippe, qu'Emmanuel Macron l'a mis entre guillemets à la porte. Moi, je ne le pense pas. Je pense que tout simplement, très symboliquement, voilà, c'est symbolique.
Il fallait quelqu'un de neuf pour incarner.
Fallait-il Jean Castex? Là, la question se pose encore. Ouais. Voilà, ça reste extrêmement symbolique. Il aurait pu continuer avec, effectivement, comme le dit Marie-Ève, avec un Édouard Philippe un petit peu requinqué. Et puis, puisque le cap reste le même, avec un peu plus de discussions avec les élus locaux, les partenaires sociaux peut-être, et puis voilà.
Marie-Ève Malouine.
L'enjeu, c'est de savoir comment on discute, qu'est-ce qu'on discute, parce qu'on peut avoir toujours un dialogue social, mais si le dialogue social est fermé dès le départ, comme le disent les partenaires sociaux dans le cadre de l'assurance chômage, il y a eu discussion, concertation, mais le cadre était tellement fermé que les syndicats ne pouvaient rien faire. Quand on va discuter de la réforme des retraites telle qu'il la présente maintenant, en disant la question en gros, c'est pas de savoir si on l'a fait, la question c'est de savoir quand on l'a fait. C'est même pas comment, c'est quand. Puisqu'il faut faire la réforme systémique et on ne coupera pas la réforme paramétrique sur le financement. Donc qu'est-ce qu'on discute à partir de là quand de toute façon c'est fermé? Un calendrier? Mais les syndicats, les partenaires sociaux, ils ne vont pas aller pour discuter pour savoir si ce sera au mois d'avril ou au mois de juin qu'ils vont se faire couper la tête. Donc c'est un vrai sujet de méthode de savoir ce qu'on met derrière dialogue social.
Je pense que la principale faute, j'allais dire, véritablement qui a opposé Emmanuel Macron et Édouard Philippe, vraiment, vraiment, fondamentalement, avec les conséquences que l'on connaît, ça a été Édouard Philippe qui a voulu imposer à la dernière minute, pour le coup, l'âge pivot, on ne va pas revenir là-dessus, les 64 ans, au sein d'une réforme. Et c'est un élément que Emmanuel Macron, quelques semaines auparavant, avait dit qu'il ne la prendrait pas en compte. Sous la pression d'Édouard Philippe, il l'a prise. Ça a déclenché, il y aurait eu des grèves, mais ça a déclenché notamment la fin du soutien de la CFDT et de Laurent Berger, alors que Laurent Berger soutenait le gouvernement dans cette réforme systémique, mais pas dans la réforme paramétrique. Je pense que là, ça a été la faute politique d'Edouard Philippe.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette interview d'1h20 d'Emmanuel Macron à la mi-journée. Merci infiniment, mesdames. Merci beaucoup.